L'évangile de ce jour, avec tout le symbolisme que Saint Jean met dans ses textes, nous rapporte la rencontre d'un homme et d'une femme autour d'un puits d'où finira par sortir la vérité. Nous assistons à un tête-à-tête intimiste, une conversation très animée entre l'homme qu'est Jésus. Fatigué par la route, il s'arrête près d'un puits, qui est un carrefour pour les hommes qui viennent chaque jour puiser de l'eau pour vivre. Jésus désire rencontrer les hommes dans leur vie ordinaire. Quant à la femme, c'est une étrangère. Elle est étrangère d'abord au peuple juif, mais il semble que soit étrangère aussi à son propre peuple. Elle semble en être exclue puisqu'elle vient, au contraire de la coutume, elle vient le midi, seule, en pleine chaleur, puiser de l'eau, alors qu'habituellement c'est à la fraîcheur du matin que tout le monde vient. Mais là, elle est seule, il semblerait qu'elle soit exclue elle-même de son propre peuple. Et voilà qu'ils se rencontrent. Jésus commence par l'interpeller. Donne-moi à boire. Aussitôt, aussi direct que Jésus, elle fait part de son étonnement. Toi, un juif, tu parles à une femme qui de plus est samaritaine, ennemie de ton peuple. C'est vraiment déjà une conversation très engagée, l'un vis-à-vis de l'autre. Cette demande de Jésus, c'est un service qu'il demande. Elle semble au départ le refuser, mais après avoir exprimé son étonnement, Jésus fait rebondir l'histoire. Il infléchit la réflexion. Il lui dit, t'es dans l'ignorance. Si tu savais le don de Dieu, et si tu savais qui te parle aujourd'hui, ce serait toi qui parlerais autrement. C'est toi qui demanderais de l'eau, il te l'accorderait cette eau vive. Réflexion de bon sens. Tu lui parles de donner de l'eau. Tu n'as même pas un seau. Et le puits est profond. Jésus persiste. Fait monter un peu le niveau de la conversation. Si tu me demandais de l'eau, je t'en donnerais. Et cette eau, elle prendrait une allure d'eau vive, c'est-à-dire qui se renouvelle sans cesse et qui est toujours source de vie d'une manière durable. Car celui qui boira cette eau n'aura plus jamais soif. Elle jaillira en lui d'une manière permanente pour la plénitude d'une certaine vie. Voilà la première révélation. Jésus parle d'un don de Dieu, d'une eau vive, qui souvent dans la Bible signifiait l'irruption de l'Esprit Saint, qui vient faire des déplacements dans la vie des hommes et qui les fait avancer vers une autre vie. Oui, nous assistons à une rencontre imprévisible, mais qui a de l'avenir. La femme réagit à sa manière, mais donne-moi de cette eau, mais dans un sens très pratique, très personnel. Si tu me donnes cette eau, je n'aurai donc plus soif. Et puis je n'aurai plus cette corvée à accomplir tous les jours. Il y a un petit espoir. Elle adhère déjà à une parole de Jésus. Je te donnerai. Elle dit, donne-moi. Même si c'est très matériel encore pour elle. Mais elle est saisie par quand même cette promesse de Jésus et déclare que c'est pour elle un prophète, un envoyé de Dieu qui s'y connaît dans les relations religieuses entre Dieu et son peuple, et réciproquement entre son peuple et Dieu. Alors c'est elle qui interroge cette foi à propos d'un problème litigieux entre Samaritains et Juifs. Nous, les Samaritains, nous adorons chez nous ici, nous avons notre religion. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est le vrai culte, c'est à Jérusalem. Que faut-il croire ? Indirectement, dit-elle. Alors Jésus parle en prophète cette fois. Peu importe le lieu. L'essentiel pour adorer Dieu, c'est d'abord de le connaître. Connaître, c'est-à-dire entrer en communication avec lui, en contact. C'est ce que Dieu attend, que les hommes essaient de communiquer avec lui, d'être en communion avec lui. Adorer, c'est se présenter devant Dieu, reconnaître sa grandeur, découvrir sa bonté, l'en remercier, le louer pour ce don qu'il nous fait. C'est vraiment une réponse importante pour Jésus, importante pour la femme. Peu importe le lieu, c'est une question de cœur à cœur, l'adoration. Quelque chose d'intérieur. Car Dieu est au-delà des manifestations extérieures. Il est esprit, déclare Jésus. Il est esprit qui fait découvrir la vérité. Aussi, il attend une réponse en vérité et en esprit, dans l'adoration et dans la prière. Oui, la vérité commence à apparaître. Cette femme découvre une certaine vérité dans la parole du Christ. Et sans doute, ça lui rappelle certaines connaissances religieuses qu'elle a cependant. Oui, je sais, le Messie va venir un jour. Il viendra nous guider, nous éclairer sur nos problèmes. Son cœur s'ouvre. Alors Jésus peut se révéler lui-même. Ce Messie qu'on appelle le Christ, c'est moi qui te parle devant toi aujourd'hui. La femme ne parle plus à un juif, elle parle au Messie, au Christ. Nous avons là une certaine forme de rencontre œcuménique, partage de deux religions, recherche commune. Un troisième épisode qui conclut le récit de Jean. La femme a témoigné, a raconté à ses contemporains, à ses compatriotes, l'expérience qu'elle vient de vivre. Les compatriotes commencent à comprendre. Ils viennent à la rencontre de Jésus. Ils l'invitent même à demeurer chez eux. Ils s'approchent de lui, ils le contactent, ils l'écoutent. L'ayant écouté, eux-mêmes, personnellement, ayant fait la même expérience que leurs collègues, presque j'allais dire, ils croient d'une manière définitive, collective. Oui, maintenant nous l'avons entendu, nous l'avons écouté, nous déclarons qu'il est sauveur du monde. Voilà comment Jean nous décrit la marche vers la foi. C'est d'ailleurs la visée de tout son évangile. J'écris tout cela pour que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie en Christ. Quelle conclusion retirer ? Jésus fait découvrir progressivement à ceux qu'il rencontre hors des chemins battus la présence de Dieu, la foi. Nous avons là une description d'un cheminement de foi. La foi commence souvent par un questionnement. Elle sollicite des interrogations, une certaine recherche, une certaine soif. Le contact, l'écoute de la parole, sous forme de dialogue souvent, fait découvrir et aboutir à la louange de la bonté de Dieu. C'est vraiment la conclusion d'une déclaration ou d'une profession de foi. Puisse notre carême être l'occasion de scruter ce qui nous fait vivre. Une double simple question. Sommes-nous des disciples assoiffés ? Assoiffé d'un Père qui nous comble de dons, assoiffé d'un Christ qui nous perd sans cesse dans l'amour d'un Père, assoiffé d'un Esprit qui nous bouscule sans cesse pour nous faire naître à la foi. Sommes-nous aussi également des missionnaires assoiffés? Assoiffé non pas d'être des donneurs de leçons, mais assoiffé de partager nos expériences spirituelles, de nos rencontres avec le Christ et des changements qu'il provoque en nous, et ainsi de témoigner devant tous et entre nous de la foi, de notre espérance et de notre amour de Dieu.